Joël, Nadia et Jean-Michel, format A3.
L'incroyable François Rabelais a inspiré des monstres d'images. Le journaliste et docteur Eslet filme Philippe Simon, jurassien d'origine, donne une conférence mercredi soir. C'est à la Farb à Delémont. Le titre de cette conférence, Dessiner les monstres à la rencontre des illustrateurs de Rabelais.
Puis on peut dire sans mauvais jeu de mots que la vie de François Rabelais est énorme. Rentré dans les ordres, il est devenu par la suite médecin puis écrivain. Ses deux premiers livres, Pantagruel et Gargantua, sont encore des références aujourd'hui.
Philippe Simon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez soutenu en 2017 une thèse consacrée à la figure du monstre dans l'œuvre de Rabelais. Qu'est-ce qui vous a inspiré chez lui ? Qu'est-ce qui vous a amené à Rabelais, plus que d'autres personnes finalement ?
Alors écoutez, je suis entré en Rabelais, comme on pourrait dire, par la grande porte lorsque je préparais ma maturité au lycée à Porrentruy. J'avais un professeur de français, Monsieur Callan, qui nous faisait couvrir l'entier du spectre littéraire, des choses très contemporaines, mais Rabelais également. Et ce qui m'a tout de suite plu chez lui, forcément, quand vous avez 17 ans, c'est que ça boit, ça mange, ça fait des bonnes grosses blagues, etc. Donc c'est un auteur qui est absolument hilarant. Et puis ensuite, une fois arrivé à l'université, à Lausanne puis à Genève, je me suis dit, tiens, et si j'allais voir un petit peu sous le capot de ce texte. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des masses énormes de savoir à autopsier, à analyser. Et je me suis rendu compte que sous la carapace comique, il y a effectivement des trésors de philosophie, des trésors de poésie. Et je me suis dit bon, là il y a vraiment quelque chose à creuser, en particulier du côté du monstre.
Alors, ces monstres, ils ont été illustrés. Il faut être un peu fou pour dessiner les monstres de Rabelais.
Alors, je ne sais pas. Oui, il faut peut-être être un peu fou. Je pense qu'il faut surtout être patient et méticuleux. Parce que les descriptions de monstres que vous trouvez dans le texte de Rabelais sont quelquefois contradictoires. Rabelais peut vous dire que tel ou tel monstre ressemble un peu à ça, mais en fait plutôt à ça, ou en fait plutôt à ça. Donc, on a des textes qui sont, des descriptions qui ne sont pas tout à fait stabilisées et, ça force l'illustrateur en même temps un exercice de souplesse et de gymnastique intellectuelle, donc ça donne quelquefois des résultats assez étranges, effectivement.
Vous avez signé il y a quelques années un article de plusieurs dizaines de pages, La baleine en morceaux, distribution intertextuelle et contingence du monstre chez Rabelais. Vous êtes amusé à décortiquer les traits des monstres de Rabelais.
Alors, en parlant de ce monstre précisément-là, dont je parlerai d'ailleurs mercredi, qui s'appelle le Phistère, c'est une sorte de monstre marin qu'on trouve dans le Quart-Livre.
Proche du cachalot, hein.
Voilà, effectivement, aujourd'hui, le terme de Phistère est devenu le nom scientifique du cachalot, Phistère macrocéphalus. Et je me suis rendu compte que si vous lisez ces quelques chapitres de Rabelais, vous voyez que ce Phistère est construit à partir de plein de beaucoup de sources anciennes qu'on trouve chez des auteurs grecs comme Nicandre de Colophon, chez des auteurs latins comme Pline l'Ancien, mais également à partir de textes médiévaux anonymes. Et il est vrai que quand on lit ce texte, on remarque que ce monstre lui-même est cousu de différents textes plus anciens. Et c'est en cela que j'utilisais la métaphore du capot précédemment. Et c'est vrai que lorsque vous rentrez dans ces textes, vous voyez qu'ils sont souvent cousus de textes plus anciens, plus ou moins malmenés par Rabelais. Et on a effectivement une sorte de corrélation entre le monstre, qui quelquefois peut être une figure hybride, et les textes qui, chez Rabelais, le sont également.
Alors, vous êtes particulièrement intéressé donc aux dessins, aux images que les œuvres de Rabelais ont inspirées. C'est des illustrateurs contemporains de Rabelais qui vous intéressent, ou alors tous ceux qui, par la suite, les siècles suivants, se sont plongés, sont aussi entrés en Rablaisie, comme vous le disiez tout à l'heure.
Alors, assez paradoxalement, vous trouverez peu d'éditions illustrées de Rabelais qui dateraient du XVIe siècle, à savoir de la période d'activité de Rabelais. Vous en avez quelques-unes, mais qui font appel à ce qu'on appelle des bois gravés. Donc ce sont des illustrations interchangeables que les imprimeurs distribuaient dans leurs livres et qui n'ont pas forcément un rapport avec le texte de Rabelais lui-même. Il faut ensuite attendre quand même jusqu'à la fin du XVIIe siècle donc à peu près 130-140 ans après la mort de Rabelais, pour qu'on ait vraiment de vraies éditions illustrées. Et ensuite, c'est un mouvement qui se développe principalement depuis la fin du 18e, et l'explosion, c'est, je dirais, à partir de la redécouverte de Rabelais par Victor Hugo, donc durant tout le 19e et ensuite durant le 20e siècle. Là, on a une réelle explosion des éditions illustrées de Rabelais. Avant, il faut bien reconnaître qu'en tout cas jusqu'à la fin du 17e siècle, c'est relativement rare.